Il est bienvenu.
Musique en mémoire. Jean-Luc Rider.
Il s'est blessé ? C'est le plus gros consommateur en pansement du stage. T'étais à la serrurement, Stéphane ?
Non, je me suis poncé un peu.
Ah, le lapidaire. Ouais. Ça, c'est l'apprentissage.
Ça tâche méchamment le bois.
C'est pas grave, mais c'est un doigt que j'utilise pour jouer du violon. Hein.
Ah, ils peuvent tous être utiles. Hein.
We won't be making the faces.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc.
Dites donc, c'est dangereux votre série.
C'est dangereux la lutherie, il faut s'y habituer, surtout lorsqu'on est stagiaire et qu'on participe une fois par année à la construction d'un instrument exceptionnel comme cette lira da braccio cette année.
Comme tous les sports extrêmes, il faut être habitué ou alors on prend des risques. Et oui, cet 11e atelier de musique ancienne nous permet de comprendre comment construire, puis comment jouer, une lira da braccio, cet instrument rare du temps de Léonard de Vinci.
Exactement, un instrument de la Renaissance qui a servi de modèle à la construction des futurs violons.
Entre sparadrap et mercurochrome, on retourne à nos tours, à nos rabots, à nos gouges et autres... David Mestri.
Avec Christian Rowe, donc maître luthier de ce stage, Philippe Motério qui est aussi l'instigateur et lui-même luthier, et puis les quatre participants avec cet instrument tout à fait exceptionnel.
Quand on l'aura tablé, on va faire notre bord définitif. Hein. On va voir la résistance qu'a la table par rapport à en place, exactement. Et donc, on va reprendre les bords de la voûte, tout le contour de l'instrument, jusqu'à obtenir à la résistance avec le pouce, la résistance qu'il faut pour que l'instrument reste stable, mais qu'en même temps, il ait la souplesse.
Oui.
Qu'il ne soit pas béton, qu'il ne soit bien évidemment pas paramolli, mais... Et c'est la phase finale. Quoi. Et donc à ce moment-là, c'est là qu'on...
Est-ce qu'il y aura des filets sur cette table ou sur...
La question se pose encore. Mm-hmm. Ça va dépendre du temps qu'on a. Ce n'est pas systématique sur les liras, il y en a parfois. Mm-hmm. Sur la table, c'est toujours bienvenu parce que ça protège d'un coup, éventuellement, le filet a une fonction mécanique. Oui. Qui fait que si l'instrument prend un coup ici, la fracture ne part pas. Le filet tient la fracture. Hein, donc c'est toujours bien. On va voir là en fonction de nos avances, de la façon dont on avance.
Et d'autres parties qui étaient sculptées de façon figurative, comme on voit sur le chevillet du modèle, là, Christian Rowe.
Oui, alors ça c'est un instrument spécial, c'est une lira da braccio avec le conservé à Vienne au Kunsthistorisches Museum, qui a été construite en 1511 par Andrea da Verona. Voilà, et c'est un instrument extraordinaire que j'ai eu la chance de pouvoir étudier sur place, de faire les relevés et de copier pour la demande de Philippe Couvert, un violoniste je crois un peu connu quand même. Et c'est un instrument exceptionnel dans la mesure où la table est un corps de femme et où le fond est un corps de femme ou d'homme, c'est pas facile à déterminer vu ce qui est présenté, qui se superpose au visage du dieu Cronos. Cronos qui a une bulle comme dans une BD qui sort de sa bouche, d'où sort une petite plaque en ivoire sur laquelle est gravée « La musique est le seul remède aux maux de l'âme hein ». Alors là déjà, celui-ci n'a que deux pointes, le violon a quatre pointes, hein, et cet instrument-là a quatre pointes. Hein. Donc il a déjà une découpe qu'on peut pas, on pense pas vraiment au violon quand on voit ça, mais le fait que l'essai soit dessiné, fait déjà penser un petit peu au violon, mais comme vous voyez, sur l'original, est taillé dans une seule pièce de bois, avec les éclisses profondément tuilées, profondément sculptées, comme celles qu'on est en train de réaliser en ce moment. Mmh. Ouais. J'ai le plan ici, si ça vous intéresse.
Ça, vous l'avez reproduit, cet instrument-là, déjà ?
Oui.
Mais en faisant aussi la sculpture
tout,
en relief.
Tout. Alors, il y a juste une nuance, puisque vous avez la photo de l'affiche tête de l'atelier, c'est que la tête de l'instrument conservé à Vienne, que j'ai eu entre les mains, que j'ai analysé, que j'ai dessiné, etc., la tête, la touche et le cordier sont des rajouts du 19e. hein, et probablement une partie du manche ou le manche entier. Donc quand j'ai réalisé cette copie, j'ai fait une copie, on va dire, analytique, et j'ai repris un autre visage qui est au dos du chevillet de cette lyra, et j'ai repris ce visage pour le mettre côté face, parce que là, franchement, on est dans du 19e néo-gothique, qui était relativement insupportable, avec des petites colonnettes de bois rajoutées, collées sur les bords, etc., ce qui est complètement antinomique avec l'esprit de la chose.
Ça, c'est même un manuel pour jouer de la lyra da braccio.
Bah, là, il y a un gros paquet de tablatures et de partitions qui ont été récoltées par donc Sterling Scott Jones. Et une analyse un peu sommaire, mais néanmoins, comme on n'en a pas tant que ça, c'est précieux. Des différentes formes, des instruments conservés, ça, ce sont des instruments conservés, tous.
Il n'y en a que 6.
Là, il n'y en a que 6. Oui. Puis déjà, là, on est sur une grosse taille, hein, puisqu'on est en 60 cm de long. On est quasiment sur une lyra da gamba. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la lyra da gamba.
Qui est le même instrument, mais joué debout.
Qui est à peu près le même instrument, mais joué da gamba et avec un plus grand.
Un instrument, Christian Rau, vous le disiez, qui accompagne la déclamation. Une déclamation récitée ou chantée ?
Les deux. Ces gens-là adoraient pratiquer les joutes poétiques, où on improvisait en vers. Il fallait de l'humour, il fallait beaucoup de rapidité d'esprit. On avait quelqu'un en face qui renvoyait l'appareil, etc. Et c'était des parties, de rigolade, mais aussi d'un très haut niveau, quoi. Et bien sûr, il fallait aussi rivaliser à la lyra, être plus habile que l'autre, etc. C'était des grosses... Et aussi pour déclamer des textes antiques ou des poésies de l'époque. Voilà, c'était le divertissement, j'allais dire, de ces gens-là.
L'avancement est bon, Philippe Motério, par rapport au projet pour le terminer d'ici samedi.
Oui, je crois que c'est vraiment très bien avancé, ce qui est pour moi une très bonne chose. Comme ça, j'ai moins à faire en fait de finition après le stage. J'encourage les troupes. C'est bien que les choses soient conduites par Christian qui connaît bien l'instrument. Et puis, c'est beaucoup plus malaisé si je dois après terminer un instrument sans le connaître aussi bien que le luth, qui est plus mon territoire.
La sculpture, elle ne sera pas faite finalement, ou là aussi la tête sera quand même, une figure qui sera faite sur ce chevillet.
Je ne pense pas, non, ça va être une version plane, avec des chevilles ornées sur le dessus, donc quelque chose d'assez élégant tout de même. Parce que les chevilles sont plantées vraiment dans la tête, on en voit le dessus sur l'instrument.
Ce modèle richement sculpté, alors c'était plutôt l'exception, c'était un...
Oui, c'était une commande, peut-être comme l'original à l'époque, une commande d'un client qui souhaitait avoir le décor compliqué, qui a dû coûter plus cher.
Est-ce qu'on a des liras aussi dans les musées qui ont un chevillet tout simple ?
Oui, et il faut retourner à la littérature pour en voir. Sur les tableaux aussi, on en voit. Voilà, l'instrument... peint par Raphaël Sanzio, où on voit une tête plate finalement, avec les chevilles plantées sur le dessus. Et par ailleurs, un instrument très similaire à celui qu'on va faire, avec les mêmes éclisses chantournées, très élégantes, et des ouïes différentes par contre.
Des ouïes assez grosses
là, oui. Probablement un instrument fidèlement représenté, on peut le voir à l'accord, à la tenue des doigts sur la touche qui représente un accord. Et souvent les peintres qui ont peint les luths à la Renaissance par exemple peignent avec une grande fidélité l'instrument et ça laisse supposer qu'ils l'avaient sous le nez pour le peindre, bien sûr.
Qu'ils ont joué eux-mêmes peut-être, comme Raphaël dont on pense qu'il était joueur de lyre.
Oui, comme Albrecht Dürer,
qui était musicien aussi,
qui jouait du luth et il l'a dessiné et peint régulièrement. L'exemple le plus frappant pour les luthistes, les facteurs de luth, c'est le Caravaggio, qui était connu comme joueur de luth également, et qui a peint l'instrument. Enfin, les exemples sont multiples. Artemisia Gentileschi, qui était aussi connue comme musicienne que comme peintre de son temps, elle jouait le luth, et elle a peint Sainte-Cécile tenant un luth, et vraiment l'instrument est admirablement peint. Et elle a peint une jeune fille... son père, Orazio, a peint une jeune fille jouant du luth, vue de dos, et elle appuie la joue contre l'instrument, comme si c'était son confident. Et c'est probablement sa fille qui l'a peinte. C'est un tableau merveilleux. Et comme constructeur d'instruments, souvent on peut se servir de ces modèles picturaux, qui sont très fidèlement reproduits. C'est une mauvaise reproduction pour ce qui est des couleurs, mais c'est Evaristo Bastienis, peintre en instruments de musique, nature morte avec instruments de musique. Les luths sont extraordinaires. On voit les luths bicolores avec les traces de doigts qui ont effacé un peu la poussière, déposé au fil des ans sur les coques des instruments. C'est merveilleux.
À côté d'un violon, apparemment. Puis une flûte sur l'écritoire.
Voilà, c'était un peintre spécialisé dans les natures mortes devant un rideau ou de larges brocarts, il empile des instruments et puis qui symbolise un petit peu le passage de la vie. Ces instruments sont couverts de poussière. C'était un peu son tableau fétiche. Alors il y en a une bonne douzaine de versions conservées.
Il a l'air doré, non ? C'est peut-être...
La reproduction ici a de très mauvaises couleurs parce que les côtes vertes. Ça, c'est des luths bicolores. Alors, c'est en général des bois fruitiers alternés, comme par exemple le poirier et l'érable. Et souvent, les luths ont des coques en bicolore, en if, c'est-à-dire qu'on utilise une partie d'aubier, une partie du cœur du tronc, de l'arbre, qui donne deux couleurs très contrastées pour un nombre de côtes, disons 15 côtes. On a l'impression qu'il y en a une trentaine, parce que chaque côte est divisée en deux couleurs bien marquées, bien séparées. Répondre à la question tout à l'heure, où en est l'avancement de l'instrument, ben voilà.
Voilà, il a l'air
fini comme ça.
Vu que c'est un instrument composé de trois morceaux, les trois principaux morceaux sont déjà bien avancés. Voilà. Hein. On a la couronne d'église qui est chantournée et sculptée à l'extérieur, l'allègement intérieur est commencé, Le chevillé est creusé déjà à l'intérieur et son pourtour est propre et net. L'emplacement du manche également.
Qui est dans la même pièce, donc les éclats.
Tout ça dans une seule pièce, oui. Effectivement. La voûte de fond est terminée. Demain matin, on va défoncer l'intérieur et la mise aux épaisseurs. Et il y a encore quelques retouches à faire sur la voûte de table. Et on va pouvoir aussi commencer à les épaisseurs. Donc ça va, pour l'instant, on est dans le tempo.
Il y a encore le manche et le...
Il y a encore la touche qu'on a vu préparer tout à l'heure, qui va venir s'encastrer, puisqu'ici, le manche va être entaillé profondément. Le cordier est prêt, les chevilles, ça avance. On en a 2 ou 3 sur 6, sur 7. Donc voilà, ceci dit, quand on construit un instrument de musique, les premières étapes sont très spectaculaires, on voit tout de suite les choses avancer, et plus en fait on avance, et moins c'est spectaculaire, et plus c'est
ralenti,
lent, et plus, je veux dire, on est dans les dixièmes de millimètre, et voilà, c'est comme en montagne. Oui.
Très joli travail de décoration là sur cette pièce du cordier, c'est ça?
Oui, exactement.
C'est d'après un modèle très précis. Vous avez copié? C'est vous-même qui avez fait la sculpture?
Alors, j'ai reporté le dessin, mais c'est un dessin de Christian, en fait. J'avais fait quelques essais, et finalement, il fallait quelque chose qui ressemble à une vraie plante, pas quelque chose de trop stylisé.
Mmh. Et c'est quelle plante qui est imitée là?
C'est des feuilles de chardon.
Très bien. Votre travail, c'est de creuser, donc... Faire un travail après de marqueterie ou simplement de sculpture, de relief en ce bois très dur qui est le cormier?
Alors simplement de relief, en fait d'abord je creuse le tour du motif, je la baisse et puis ensuite je vais travailler sur le motif lui-même pour donner un peu de vie au dessin.
Voilà, la table depuis l'autre jour elle a ses ouïes, c'est de bosser, elle est pratiquement terminée.
Elle est prête à être collée, ouais, effectivement.
Ah, d'accord.
On ajuste encore l'étiquette avant de refermer la boîte. Et puis c'est la prochaine
j'arrive
étape.
Le dernier moment, voilà. Donc, c'est le dernier moment pour voir l'intérieur de cette lira d'abraccio avec ce dos voûté et qui a une sorte de colonne vertébrale au milieu. C'est une sorte de barre qui donne la solidité à l'instrument.
Oui, qui donne un peu d'agilité. Christian, pour la raison exacte.
C'est une colonne vertébrale finalement, cette barre qui est juste sur le dos de l'instrument.
Exactement, enfin, c'est comme ça que je l'appelle moi en tout cas. Elle est visible à l'extérieur d'un certain nombre d'instruments sculptés, d'instruments médiévaux sur les sculptures, souvent ménagés à l'extérieur de l'instrument. Et sur certains autres instruments comme les cithols ou certaines vielles aussi, c'est au lieu d'avoir une voûte, on a 2 pans qui font un angle. Qui donne bien cette sensation que la résistance longitudinale est importante, d'autant plus ici qu'on n'a pas d'âme, donc le fond va avoir tendance à s'étirer, hein, sous la tension des cordes côté table, le fond va avoir tendance à s'étirer, et ça lui permet d'avoir une résistance, donc à la que la voûte ne s'aplatisse pas, ne soit pas étirée, et en même temps ça libère 2 alvéoles beaucoup plus fines de chaque côté de la colonne vertébrale.
C'est un mouvement de hanche là,
ouais, en même temps fesses, bien sûr. Ça swing, deux membranes beaucoup plus fines de chaque côté qui nous permettent d'obtenir une plus grande palette de vibrations, de richesse de vibrations.
C'était des instruments qui étaient destinés à durer de nombreuses années, à être solides, à défier le temps?
Je pense que oui, comme tout ce qui était construit à l'époque. La seule chose, c'est qu'il est devenu désuet assez vite, remplacé très vite par la famille des viols et des violons, ce qui fait qu'on en a perdu quand même un très grand nombre. Et puis, cette technique de fabrication avec les éclisses tuilées étant devenue également désuète, il y a aussi de nombreux instruments dont on a préservé la table et le fond, remis au goût du jour pour pouvoir supporter une barre et une âme, et des éclisses faites à la nouvelle manière, à la nouvelle mode, et on a
des languettes donc qui sont courbées par la chaleur.
Au feu, voilà, avec les petites planchettes pliées au feu, c'est ça.
Alors l'étiquette est en train d'être installée, ça, c'est un moment important. À l'intérieur, elle ne se verra que par la nuit ensuite. 11e atelier de musique ancienne de Gruyère, 18-25 août 2013, avec le nom de tous les participants à la construction. Elle est équipée déjà de ses chevilles aussi.
Voilà, la touche est prête, elle attend la table pour qu'on lui donne son basculement définitif. Et maintenant, on va tabler, c'est-à-dire fermer définitivement, enfin, définitivement, oui, l'instrument.
Et avec une fois la table terminée, vous allez réduire l'épaisseur de...
Alors, le chevillé est en place.
Oui, hein, il est creux.
Les bords extérieurs vont être repris un peu. Une fois que la table va être mise en place, on va pouvoir donc positionner la touche, donc façonner la poignée, et également reprendre tous les bords, puisque là, les bords sont saillants, puisqu'on est, on en est au stade du collage. Les bords vont venir affleurer l'éclisse. Voilà, reprendre les bords et les épaisseurs sur tout le contour pour donner à la table exactement la résonance qu'on recherche.
Et le manche va être un peu creusé, comme je
disais. Oui. Oui, c'est parfaitement ergonomique.
Voilà. Par contre, cette ligne qui est sur le bord, c'est le chevillé, on va l'appeler comme ça.
Alors, cette ligne-là correspond à l'épaisseur dans laquelle fonctionnent les chevilles.
D'accord. Hein,
c'est important parce que ça va nous permettre de positionner l'ergot sur lequel vont venir se reporter les bourdons.
Avec les cordes extérieures.
Voilà, et puis également ça nous a permis de distribuer les chevilles correctement avec une longueur correcte qui sort.
Donc le travail va être terminé à temps pour demain pour la présentation, Christian Roux.
Je le souhaite, je l'espère. Le problème, c'est qu'à partir du moment où la touche et la table sont collées, il y a 4 stagiaires et il ne reste plus qu'une pièce. Alors non, il reste encore le cordier et le chevalet. Hein. Donc... ça ne pourra pas aller plus vite que le travail d'une seule personne, mais on est... j'y crois.
Mais il y aura une démonstration dans la présentation, un peu sonore aussi.
Samedi, il y aura une petite réception autour du nouveau-né. Et oui, j'espère de tout cœur qu'on va pouvoir le faire sonner un peu. Surtout qu'il y aura les musiciens du concert. Et voilà.
Donc des lyristes, ou bien comment est-ce qu'on les appelle?
Oui, enfin c'est l'ensemble Il Ballo. Et parmi eux, il y a 2 joueurs de lira da braccio. Il y a Nicolas Sansarla. Ou Frédéric Martin, je ne sais pas qui sera là demain, mais les deux sont d'excellents joueurs de lira da braccio. Et ce sera un bonheur que de l'entendre sonner sous des doigts experts.
Quel cordage vous allez mettre à ça? Alors, 7 cordes en boyau?
Entièrement du boyau nu. Entièrement du boyau nu.
Pas du tout... c'est torsadé tout de même?
Oui, non, non, il n'y a aucune torsade métallique autour. C'est entièrement du boyau nu, y compris les bourdons. C'est des... comme ça se pratiquait à l'époque.
C'est des fabricants de cordes qui font des cordes à la médiévale, alors qui vous fournissent?
Il y a aujourd'hui, je ne dirais pas de nombreux, mais il y a quelques fabricants d'instruments à cordes qui sont d'ailleurs, qui font des progrès merveilleux ces dernières années, je trouve vraiment, qui arrivent à nous procurer maintenant des cordes extrêmement souples, même quand elles sont de gros diamètre, et qui tiennent parfaitement bien l'accord, et avec des boyaux de qualité. Je ne citerai pas de constructeurs, mais vraiment, on a maintenant de très très belles cordes. Ouais.
Beaucoup d'enfants qui visitent aussi le château, ils s'intéressent à la lutherie, vous avez pu discuter avec eux?
Nous, on est disponible à toutes les questions et à tous les dialogues. On ne va pas non plus au-devant parce qu'on a un autre travail. S'il y a des enfants qui s'arrivent, bien sûr, qui s'approchent et qui sont intéressés par le travail de la sculpture du cordier ou par ce qui se passe, bien évidemment qu'on les reçoit tout à fait comme ils le méritent, comme des grandes personnes.
Et là, c'est le chevalet qui va être mis sur l'instrument, Philippe Terrio?
Pas encore. Non, la pièce pour le fabriquer est en dessous.
Oui.
Toujours en érable. Et puis, ça, c'est le modèle de Christian. Il s'agirait dans cette pièce-là de fabriquer la même pièce.
C'est quelque chose qui se fait assez rapidement, un chevalet comme ça, ou c'est du travail
ça
très précis
s'y met.
Oui, puis il y a deux stades. Il y a un stade où c'est la préparation du contour, etc. Ça se fait relativement rapidement. Et l'ajustage précis sur la table, c'est autre chose. Le réglage des hauteurs pieds. Et des écartements de cordes aussi. Quoi.
Les pieds bien posés sur la table, ça c'est vraiment qu'il n'y ait pas de jour.
Voilà, donc ça doit vraiment épouser parfaitement la
oui, c'est important pour que la galbe transmission des ondes soit vraiment le plus efficace possible. En fait, très important. Ça c'est vraiment le moteur de l'instrument, cette partie-là, le lien entre l'axe sur lequel les cordes sont fixées, là où elles ont leur pouvoir de vibration qui se transmet à la table par l'intermédiaire du chevalet. C'est vraiment le moteur.
C'est la première transmission.
Que l'on parle de cordes nobles comme les violons ou les lyres ou de guitare. En fait.
Quel est le bois pour le chevalet, Christian Rowe ?
Un sycomore, érable sycomore aussi, mais particulier, c'est un érable du Jura, qui est très sec, très percutant, très rapide. Et, le jeu, c'est de sortir la maille, puisque la maille étant ce qui unit les anneaux de croissance, le cœur de l'arbre se trouve de ce côté-là, les anneaux sont autour, comme des tubes qui seraient pris les uns dans les autres, et la maille, c'est ce qui solidifie les anneaux les uns avec les autres, et sur la face du chevalet on doit avoir la maille la plus longue possible pour être parfaitement utiliser le bois le plus dans le sens où il est le plus rapide. On la sort ici et là tu vas descendre plutôt la tête. Attends, on va remener du chien parce que vas-y.
Je sais pas, elle est hyper résistante cette presse. C'est bon là ?
Encore un peu.
Un peu ?
C'est bon. Et tu enlèves plutôt ici, mais je veux un beau plat.
Mm-hmm. C'est une pièce qui n'est pas tout à fait symétrique. Elle se répartit souvent parce qu'il y a les cordes beaucoup plus grosses d'un côté que de l'autre.
L'instrument lui-même est dissymétrique. Le manche lui-même n'est pas dans l'axe. Ouais. Puisqu'il y a deux bourdons extérieurs. Et que les cordes aiguës tirent beaucoup plus puissamment que les basses, et que le chevalet est très large puisqu'il a cette corde, le chevalet a naturellement tendance à se déplacer vers les graves, et il faut donc à la construction compenser ce mouvement naturel que l'on observe sur toutes les peintures. Si on fait un prolongement des bords de touche vers le bas de la caisse sur toutes les peintures que l'on a, on s'aperçoit que la touche n'est pas dans l'axe de l'instrument.
C'est très léger, donc ça se voit seulement si on est attentif.
8 mm quand même.
Parce que, mais les lois de symétrie qui présidaient à toute une représentation du monde, en tout cas avant la Renaissance, elles doivent être contournées
non,
pour
non,
l'instrument.
Non, attention, la symétrie n'existe nulle part dans la nature. Il y a juste l'idée de la symétrie. Hein. Donc dans toutes les feuilles du même arbre, elles ont toutes une structure symétrique, mais aucune n'est symétrique géométriquement, enfin je veux dire exactement. L'instrument est pareil.
Sur un violon, il y a beaucoup moins d'asymétrie. Tout même.
Il n'y a pas. Il n'y a pas d'asymétrie. C'est rigoureux. Le manche doit être rigoureusement dans l'axe.
On sait quelque chose de Vittore Carpaccio. Donc ça, c'est le peintre, en fait, du modèle.
Oui.
C'est un 1510 qui figure sur votre modèle, sur le patron des calques ici. Mais le modèle imité, on connaît son luthier, on connaît des luthiers. Le nom de luthiers qui ont fabriqué des lire ad braccio, Christian ?
L'école de Brescia en a fabriqué, à Venise il y en a eu de fabriqués, Andrea da Verona en a fabriqué. On a 5, 6 ou 7 lira à conserver dans les différents musées. Il faudrait regarder celle de Bruxelles qui est magnifique, je ne me souviens même plus l'auteur. On peut regarder tout de suite. Mais...
Voilà le tableau de 1510 qui est à l'origine de votre envie de faire des lire.
Non, en fait, l'envie s'est déclenchée tout simplement au départ par une commande, donc d'une copie précise de la lyra conservée à Vienne, qui est un délire gothique flamboyant absolu, renaissance aussi, puisque c'est un instrument, on en a parlé un petit peu la dernière fois, dont la table et le fond sont entièrement sculptés en relief, la table étant un corps de femme, et le dos étant un mix de chronos et de buste d'homme. Donc c'est comme ça que j'ai fait les premiers relevés des premières lyras.
Là c'est un très beau dessin d'ange, un détail hein, d'une, Une œuvre qui était à l'Académie de Venise, c'est ça ?
C'est ça, c'est le musée de l'Académie de Venise. C'est en fait, je crois, une présentation de Jésus au temple avec au pied deux musiciens, deux anges musiciens.
Qui n'ont pas d'aile d'ailleurs.
Qui n'ont pas d'aile, oui, c'est vrai, deux jeunes musiciens, deux anges sans aile. L'un jouant le luth, l'autre une lira da braccio absolument remarquablement bien peinte, et simplement à chercher sur le compas, sur la repro, on retrouve les proportions qui ont permis de le dessiner. C'est une remarquable peinture.
Ça laisse penser que Carpaccio, comme Leonardo, était probablement un joueur de lyre, puisque c'est l'instrument des peintres, Christian Rowe.
Alors, ce n'est pas exclu. Je ne sais pas si Carpaccio, précisément, jouait aussi la lyra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il la connaissait parfaitement, puis qu'il en avait une sous les yeux quand il a peint. Parce qu'il n'y a pas un détail qui manque. Tout est en place. Et même quand on prolonge la touche, on se rend compte qu'on est décalé, le prolongement de la touche est décalé du côté des aigus.
Ce qui fait cette asymétrie nécessaire,
voilà,
pour l'instrument.
Exactement. Et donc, ce qui est stupéfiant, c'est que les peintres non seulement le sachent, mais la représentent. Et c'est pas un exemplaire, c'est tous les exemplaires. Il y en a une seule que j'ai relevée qui n'était pas dissymétrique. C'est l'instrument qui a été restauré par Hill, qui a remis le manche droit. Je me suis dit, attends, il y a une horreur là, le manche est de travers. Qui est conservé à Londres, je crois. Ou c'est celui de Bruxelles, pardon. C'est celui de Bruxelles. C'est comme le whisky, tu vois. La qualité de l'eau est essentielle pour la coiffe.
Il faut chauffer la colle très doucement.
C'était parce que moi, quand je rajoute de l'eau dans la colle, je prends l'eau chaude.
Passe. Sinon, il déborde et puis t'en as partout. Encore un petit peu.
C'est un récipient spécialement destiné à chauffer la colle. Il est assez étonnant.
C'est une friteuse recyclée.
Friteuse en céramique, en grès ?
Non, le pot,
oui.
Donc le bain-marie. Et puis je l'ai amené, attention c'est très chaud le fer, je l'ai amené chez une potière qui m'a fait deux pots sur mesure. C'est assez raffiné comme outil, où on voit le petit espace pour ranger
le bouchon qui est en porcelaine.
La colle chauffée au bain-marie, il ne faut vraiment pas qu'elle chauffe trop. En fait, au départ, c'est des petits granules de colle d'os que l'on fait tremper et puis que l'on dilue pour que ça devienne comme une huile un petit peu épaisse. Ça dépend du collage qu'on fait, on la veut plus ou moins épaisse. C'est la même colle qu'à l'époque, hein, 1420, ils employaient absolument la même.
Là, vous serrez avant de mettre déjà... Ah, parce que c'est pour ajuster exactement le...
Voilà, en fait, on ne met en route un collage en lutherie que après que toutes les presses aient été testées en place, etc., de façon à être sûr que tout soit bien. Parce que quand la colle est en se posant chaude, tout temps perdu, et voilà. Et il n'est pas question de mettre la colle et de chercher avec quelle presse on va coller après. Et là, il faut en fait réouvrir toutes les presses, puisque le collage précédent, on n'avait pas la table, on collait le fond sur l'éclisse. Donc là, il y a 5-6 mm, enfin 4 mm en plus. Donc en faisant ça, d'une part, les presses sont déjà toutes prêtes. Et d'autre part, on va pouvoir commencer le collage. On ne va enlever que 5 ou 6 presses, faire le collage, continuer, faire tout le tour de l'instrument comme ça, sans qu'il y ait besoin de chercher la place exacte de la table. La place de la table est trouvée, ça y est. On peut y aller sans hésitation à partir de ce moment-là. La colle est bonne, Jérôme ?
Là, j'ai pas regardé.
Est-ce qu'elle chante ? Non, non, ça doit couler comme de l'huile, toi, hein, ça fait voir. Ah, faut bien couler parce que le fond en porcelaine doit être plus chaud que la surface de la colle, malgré sa couverture.
Et quand c'est parti. Non, mais ça colle moins bien si on n'a pas le couvercle.
Voilà, donc. En fait, vous écartez la table en ayant enlevé quelques-uns des petits serre-joints pour pouvoir glisser le pinceau entre la table et les éclisses.
Soit avec le pinceau, soit avec une lame de métal chauffée. Mais ça marche bien avec le pinceau aussi.
C'est une colle qui sèche très vite alors après ?
La prise se fait à peu près en une heure, la colle d'os. La prise totale maximum, c'est 24 heures, enfin une nuit, quoi. Mais dans un délai d'une heure, la prise est bonne. Et sauf si on doit faire subir des efforts à la partie collée, à l'arracher, etc. Sinon, on peut censément travailler à partir d'une heure, une heure et demie après le collage.
Mais la raison pour laquelle vous n'ouvrez pas l'entier et collez l'entier en une seule fois, c'est que ça mettrait... Ça...
C'est parce que la table est exactement positionnée partout. Donc on ouvre par portion. D'une part, parce que si on mettait la colle tout le tour et puis qu'on cherchait à mettre la positionner et tout, la colle aurait le temps de refroidir et de durcir avant même. Et la table aurait... Dégâts de la colle, ça peut aussi avoir tendance à glisser. Là, on sait qu'on peut y aller tranquillement. La table va rester exactement à la place qu'on vient de lui donner, qu'on lui a donné avant, puisqu'elle est maintenue par toutes les presses qui sont en place.
Il y en a une vingtaine, même plus.
Ouais, je sais pas.
Trentaine. Ce que vous appelez des presses, c'est des mini-sergents. Quel métal? En laiton?
Des presses du laiton, oui.
Avec des petits bouts de caoutchouc, c'est un outil spécifique de l'outil.
Oui, 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 c'est la presse à tabler. C'est la vis à tabler, on dit aussi, qui permet d'attraper les bords de l'instrument opposé. Et de les serrer l'un contre l'autre. Le truc à éviter, c'est de mettre trop de colle, parce que dans cette position-là, une goutte de colle pourrait couler à l'intérieur. Et après, c'est terrible, ça te fait comme une languette de métal. Et quand tu joues, ça fait zzzzum, zzzzum. Puisque la goutte, en descendant, elle est de moins en moins adhésive. Donc elle se décolle très vite de la paroi. Et c'est terrible. Surtout quand on est dans cette position comme ça. Tu mets pas assez de bois, ça fait. Si tu mets trop de bois, ça sonne pas. C'est l'art de l'équilibre. Un art d'équilibriste. Il y a quelqu'un qui s'y colle ?
Ouais.
Qui s'y décolle.
S'y décolle.
Alors on passe le pinceau sur les éclisses pour enlever le reste de colle, c'est ça?
Oui, exactement, oui.
C'est avec l'eau chaude qu'on nettoie.
Avec l'eau chaude, exactement, puis on tâche d'enlever tous les résidus de colle pour essayer de faire quelque chose de propre.
Alors c'est bon pour le collage, Christian Roux? Tu peux enlever les petits serre-joints, les petites presses?
Ça y est, on enlève les presses. Et un peu d'impatience, toujours comme un enfant. On n'en a plus qu'à. Donc quelqu'un pour faire les bords.
Voilà.
Ou canif.
C'est concluant, la résonance du fond.
Pour l'instant, c'est pas mal. C'est encore un tout petit peu rigide. Il y a du bois en trop. Et puis, on va reprendre un peu sur les bords. Et c'est là où on va accorder définitivement.
Ça veut dire qu'il va falloir encore...
Oui, bien sûr, puisque là, on va arriver à notre bord définitif et on va raccorder le plan qu'on a utilisé pour les presses de collage avec la voûte. Et ça, ça se fait à la façon italienne, c'est-à-dire par l'extérieur, une fois que l'instrument est en place.
Avec des petits rabots.
Avec des rabots à voûte et rasières, oui. Oui, parce que...
Et puis donc c'est l'âme, c'est ça que vous utilisiez, les sortes des rabots en forme de comment vous dites, rasier?
Alors la rasière, c'est autre chose. On utilise le rabot à voûte, qui est un tout petit rabot qui a la semelle voûtée. Mm-hmm. Et la raziera italiano, parce que j'aime pas beaucoup le mot de grattoir, ou je sais plus jamais comment on dit en français, mais c'est un mot qui est horrible. La rasière fait vraiment son office, on lève des copeaux très fins.
C'est ces plaques de métal.
C'est les plaques de métal dont on retourne le morfil, on utilise le morfil. À l'affûtage. Attention à la sortie, là, il y a un contrefil. Hein. Ouais, ici, tu t'arrêtes et tu reprends là et tu redescends.
Ok, ouais. Hein? Alors pour ça, je suis obligé de tourner violent.
Tu fais comme tu veux, mais tu veux être intéressant. Luthier, on devient par force un peu ambidextre, plus ou moins après, suivant les gens. Je me souviens, Morassi était complètement ambidextre, complètement. Il passait la gouiche de la main droite à la main gauche, tous les outils, les rabots de la main droite à la main gauche, sans même y penser. Mais c'est aussi un apprentissage. Tu Il faut toujours jongler entre la meilleure position de la main avec l'outil par rapport à la meilleure tenue. Attention dans ce sens-là, retourne. S'il te plaît, parce que tu vas te faire sauter la pointe. Hein. La meilleure position donc, de l'outil avec la meilleure tenue de l'instrument. Parce que maintenant, il faut le tenir. Quoi.
Ça, c'est un travail que vous aimez bien, Christian Roux. Vous disiez que vous étiez impatient de vous y mettre.
Bah oui, moi, j'adore. Enfin, la construction, c'est... C'est ma vie, un peu. Et puis, c'est vrai que, vu que tous les instruments que je construis, je dessine avant, c'est pas que je fais 10 fois le même instrument, jamais. Donc, il y a toujours un tiers contre-fil. Il y a toujours une excitation, j'ai l'impression de jouer ma vie à chaque fois, moi.
Parce que si on est à contre-fil, par exemple, on risque de faire fendre le bois.
C'est-à-dire que, oui, l'âme, elle rentre, mais elle sort pas. Donc, c'est le bois qui pète. Et quand on est en limite du bord, hein, je veux dire, si on. Voilà, si c'est pas. Le bois, on peut pas en mettre.
Tu dois faire tout le tour comme ça.
Ouais.
Ouais, ça, ok.
Bah, tu verras que quand tu seras à la table, ça ira beaucoup mieux. Hein ? Ouais.
Encore une pièce cylindrique, ce sera quelle pièce celle-ci, Jérôme ?
Ce sera en fait une sorte de sillet sur lequel viennent terminer les bourdons, les deux bourdons de la lyra, et qui est planté sur le côté du chevillet.
Mmh. Elles passeront à l'intérieur, les cordes passeront à l'intérieur ou...
Elles feront un angle par-dessus, un peu comme un sillet normal sur l'instrument, mais... Cette pièce est un peu déportée à l'extérieur de l'instrument. C'est vraiment quelque chose qu'on rencontre plus sur les violons ou les instruments modernes. Et c'est vraiment une des particularités de cette lyra. Alors, une petite pièce à faire pendant qu'on attend que tout le reste sèche.
Oh,
Quelle belle voix, David Mestri. La voix d'une lyra da braccio et une voix humaine.
Comme souvent, puisque cet instrument a été conçu, comme on apprend toute cette semaine, surtout pour accompagner la voix. Et c'était ici celle d'Annemieke Kantor, contralto, et jouant de la viole, Per Mattsson, l'un des rares instrumentistes qui s'est touché de cet instrument rare. Demain, on aura Frédéric Martin qui viendra à Gruyère à la fois pour donner un concert et pour nous parler de cet instrument qu'il joue aussi depuis de longues années.
Parfait. Entre-temps, on prend quelques minutes pour écouter encore quelques accents de cette voix et de cet instrument, David.
Et de cette musique du temps de Léonard de Vinci, ce sont des frottole italiennes tirées d'une anthologie intitulée Barzellette.
Speranza ogni ormai con
Voilà, ainsi s'achève cette émission de musique en mémoire au son de cet instrument exceptionnel, de cette très belle voix. À demain, David Mestri.
À demain, Jean-Luc.
Puisque nous retournerons ensemble visiter ce 11e atelier de musique ancienne tel qu'il a eu lieu à Gruyère du 18 au 25 août dernier. Ensemble, nous remercions Didier Rossa pour sa réalisation, Isabelle Watson pour son assistance à la production. Musique en mémoire, proposition de Jean-Luc Ritter. Vous écoutez Espace 2, il est 11h.